Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Il existe des choses incompréhensibles. Notre attitude spontanée et naïve face à l'incompréhensible serait de nous en détourner, et cela pourrait aller jusqu'à nier son existence. C'est incompréhensible, donc cela n'existe pas. Pascal nous avertit en disant ceci: tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Une chose peut exister tout en étant pour nous incompréhensible. La raison humaine peut se trouver devant des réalités incompréhensibles. Pascal prend exemple ici du nombre infini. L'infini positif en acte est un nombre. Un nombre normalement est positif ou négatif. L'infini n'est ni négatif ni positif, et on peut lui ajouter, enfin on ne peut rien lui ajouter, etc. Donc il y a ici quelque chose qui ne laisse pas d'être, qui existe bel et bien, mais qui est pour la raison humaine incompréhensible. La raison humaine peut le recevoir, peut le penser, mais sans pouvoir l'épuiser en saisissant la nature. Donc il y a de l'incompréhensible. Pascal, dans un autre fragment, nous met en présence d'un certain nombre de points incompréhensibles pour nous, qui sont décisifs évidemment. Je lis ce fragment. Incompréhensible que Dieu soit, et incompréhensible qu'il ne soit pas. Que l'âme soit avec le corps, que nous n'ayons pas d'âme. Que le monde soit créé, qu'il ne le soit pas, etc. Que le péché originel soit, et qu'il ne soit pas. Voilà la raison humaine devant des abîmes. Il est incompréhensible que Dieu soit, ce qui veut dire aussi que il y aura là un échec de toute preuve de l'existence de Dieu, puisque nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas prouver véritablement l'existence de Dieu. Mais, en revanche, il est tout autant incompréhensible que Dieu ne soit pas. La raison humaine ne peut pas ne pas affirmer Dieu et ne peut pas ne pas savoir qu'elle ne comprend pas ce Dieu qu'elle reçoit, dont elle reçoit la pensée. Pareillement pour l'âme, que l'âme soit avec le corps, l'union de l'âme et du corps est incompréhensible. Là, évidemment, c'est un héritage cartésien. Si l'âme est spirituelle et que le corps est matériel, on ne voit pas comment l'âme peut être avec le corps, unie avec le corps. Mais il est pareillement incompréhensible que nous n'ayons pas d'âme, parce que certains disant que puisque l'âme ne peut être avec le corps, il en résulte que l'âme n'existe pas. Mais si nous n'avions pas d'âme, nous ne parlerions point, nous ne penserions point, nous n'aurions point de sentiments, etc. Et l'expérience la plus commune nous montre que nous sommes une âme. Autre point incompréhensible, que le monde soit créé. La création est incompréhensible pour nous, mais s'il n'est pas créé, ça veut dire qu'il est éternel, qu'il a toujours été et qu'il sera toujours, et cela n'est pas davantage compréhensible. Il est donc incompréhensible aussi qu'il ne soit pas, qu'il ne le soit pas créé. Donc en fait, il faut affirmer à ce moment-là que le monde est nécessairement créé, qu'il dépend de celui qui a bien voulu lui donner l'existence. Le dernier point qui m'intéresse ici, c'est le péché originel. Le péché originel est une folie pour l'homme, il est incompréhensible. Et en même temps, qu'il ne soit pas, ce serait encore plus incompréhensible. Que dit Pascal dans le fragment suivant ? Le péché originel est folie devant les hommes, mais on le donne pour tel. Vous ne me devez donc pas reprocher le défaut de raison, cette doctrine, puisque je la donne pour être sans raison. Mais cette folie est plus sage que toute la sagesse des hommes. Car sans cela, que dira-t-on qu'est l'homme ? Tout son état dépend de ce point imperceptible, et comment s'en fut-il aperçu par sa raison, puisque c'est une chose contre la raison, et que sa raison, bien loin de l'inventer par ses voies, s'en éloigne quand on la lui présente. Le péché originel est donc le point incompréhensible par excellence. Nous ne comprenons pas notre condition, notre situation, notre état, sans l'idée du péché originel, et en même temps l'idée du péché originel et la question de sa transmission nous est incompréhensible. Nous sommes devant un nœud ici, un nœud de difficulté, comme un nœud qu'il faut dénouer, mais que nous ne parvenons pas à dénouer. Pour Pascal, l'homme est un chiffre, l'homme est un nœud, et c'est le Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui sera la clé du chiffre. Un chiffre, c'est un message chiffré dont il faut trouver la clé. L'homme est un chiffre, la clé du chiffre, c'est le Christ. À propos du péché originel, Pascal l'appelle à la fois nœud et abîme, en soulignant avec profondeur le point suivant. Sans ce mystère, le mystère du péché premier, originant, comme l'appelait saint Augustin, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme. De sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Ce mystère est inconcevable à l'homme. Mais si, pour simplifier les choses, pour croire, comprendre ce qui est, nous supprimons, admettons qu'on puisse parler ainsi, l'hypothèse du péché originel, alors c'est l'homme qui devient inconcevable. Le péché originel est le nœud de notre condition. Il ne laisse pas d'être, ce n'est pas parce qu'il est incompréhensible que la manière de sa transmission est incompréhensible, qu'il n'existe pas. Il faut donc bel et bien méditer tous ces mystères, méditer tous ces points incompréhensibles, ce qui veut dire commencer par reconnaître leur existence et leur caractère précisément incompréhensible. Alors, cela s'éclaire avec un autre passage important, c'est l'idée du Dieu caché, dont il faut nous approcher en cheminant vers lui. C'est un thème important que Pascal emprunte au prophète Isaïe, l'idée d'un Dieu qui se cache, d'un Dieu qui est un Dieu caché. En vérité, tu es un Dieu caché. Pascal, à maintes reprises, rappelle la parole dans Isaïe. Je cite ici un passage capital. « On se fait une idole de la vérité même, car la vérité hors de la charité n'est pas Dieu, et est son image et une idole, qu'il ne faut point aimer ni adorer. Et encore moins faut-il aimer ou adorer son contraire, qui est le mensonge. » Alors, que veut dire Pascal ? C'est dans le contexte d'une méditation sur le fait que Dieu s'est caché, a voulu se cacher, que Pascal écrit ce que je viens de lire. Que signifie « se faire une idole de la vérité elle-même » ? Que veut dire Pascal ? Il veut dire que la raison humaine est capable, par ses propres ressources, sa propre vigueur, justement, de saisir l'idée de vérité, en oubliant que cette idée de vérité est pour nous une vérité nue, vide, et que nous ne connaissons pas ce qui est vrai. Et alors, la raison humaine est capable de faire de ce qu'elle tient pour vérité une idole. Ce qui veut dire que la raison humaine est capable de séparer la vérité de la charité. Évidemment, ceci est compréhensible à partir de la parole du Christ dans l'Évangile selon saint Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et donc, cela veut dire qu'il ne faut pas séparer la vérité d'avec la charité. Nous nous faisons une idole de la vérité quand la raison se fait une idole de l'idée de la vérité qui est la sienne. Et à ce moment-là, nous adorons ce que nous prenons pour vérité en oubliant le lien intrinsèque et intime entre la vérité et la charité. Que dit Pascal ? La vérité en dehors de la charité n'est pas Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est vérité, que le Christ, la parole de Dieu est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, mais qu'il ne faut pas séparer la vérité d'avec la charité. Dieu est charité, Dieu est amour, c'est la première épître de saint Jean qui nous l'enseigne, ainsi que l'évangile de Jean tout entier. Mais à ce moment-là, cela veut dire que la vérité n'est connaissable que dans son lien intime avec la charité. La charité est Dieu, et la vérité, et Dieu est vérité en tant qu'il est charité. Sinon, justement, nous risquons d'aimer, d'adorer une simple idole de l'entendement humain, une simple idole de la raison. Évidemment, le pire serait d'aimer le contraire, qui serait d'aimer tout simplement le mensonge. Continuons notre méditation en lisant une autre page qui nous fera voir encore le problème du Dieu caché. Pascal s'en prend maintenant à ce qu'il appelle le déisme, qu'on appelle évidemment à son époque déjà le déisme, en montrant que le déisme est pour lui aussi ou presque aussi éloigné de la religion chrétienne que l'athéisme. On pourrait penser au contraire naïvement que l'athée est celui qui est le plus loin du christianisme et que le déiste est plus proche du christianisme que l'athée. Pourquoi ? Parce que l'athée nie l'existence d'un Dieu, quel qu'il soit, alors que le déiste a l'air de tenir pour vrai l'existence d'un Dieu. Mais précisément, le déisme a pour malheur ici, et pour infirmité, d'adorer une idole, de faire de la vérité une idole. C'est-à-dire de croire en une idée dont la raison humaine est l'auteur. Le déisme, ici, que fait-il? Eh bien, il réfléchit sur l'ordre du monde, par exemple, et considérant l'ordre du monde, introduisant le principe de causalité, il considère qu'il ne peut pas ne pas y avoir un auteur de ce monde. Si je reprends la formule qui sera connue après, si le monde est comparable à une horloge, il faut bien qu'il y ait un horloger, un grand horloger. Donc le déiste est quelqu'un qui raisonne en introduisant le principe de causalité et qui affirme qu'il doit y avoir une cause du monde. Mais Pascal fait remarquer que dans la Bible, on ne se sert pas de la nature pour aller à Dieu, on ne prouve pas Dieu à partir de la nature, et donc en vérité le déisme est une idolâtrie de la raison ou de l'entendement humain. Il faut donc surmonter le déisme en comprenant que le déisme, loin d'être un chemin vers le Dieu vivant, vers le Dieu trinitaire, est une voie d'égarement parce que le déisme est presque aussi éloigné de la religion chrétienne que l'athéisme, qui est, lui, tout à fait contraire, évidemment, au christianisme. La vérité, donc, du déisme, c'est qu'il est une idole et qu'il faut le vaincre.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Dans un fragment important, Pascal dresse une sorte de tableau des différentes idées de Dieu qui sont venues à la raison humaine. Et il compare justement ces idées entre elles pour montrer la part de chacune. Et comparer, c'est comprendre la différence avec le Dieu de Jésus-Christ. Je lis ce fragment en entier, après je le commente. Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques et de l'ordre des éléments. De point, c'est la part des païens et des épicuriens. Il ne consiste pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence sur la vie et sur les biens des hommes pour donner une heureuse suite d'années à ceux qui l'adorent. De point, c'est la portion des juifs. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d'amour et de consolation. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qu'il possède. C'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie, qui s'unit au fond de leur âme, qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance, d'amour, qui les rend incapables d'autre fin que de lui-même. Tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ et qui s'arrêtent dans la nature, où ils ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse, où ils arrivent à se former un moyen de connaître Dieu et de le servir sans médiateur. Et par là, ils tombent ou dans l'athéisme, ou dans le déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne aborde presque également. Reprenons ce texte magnifique. La part des païens et des épicuriens, donc la part des philosophes, évidemment c'est la philosophie grecque qui est là, c'est d'avoir conçu un Dieu auteur des vérités géométriques, auteur de l'ordre du monde. On peut penser bien sûr aussi, plutôt d'ailleurs, au Timée de Platon. Donc, par l'intelligence, l'homme est capable de concevoir un auteur du monde, un ordonnateur du monde qui fait passer le monde du désordre à l'ordre. C'est exactement la pensée de Platon dans le Timée. Donc il y a quelque chose qui peut rester vrai dans son ordre, mais évidemment qu'un Dieu simplement ordonnateur d'un désordre pour créer ce que Platon appelle lui-même un cosmos, ne nous donne pas la vérité de Dieu. Deuxième point, la vérité du judaïsme. Que dit Pascal ? Eh bien, le Dieu révélé à Moïse est un Dieu qui exerce sa providence sur la vie et sur les biens des hommes. Le Dieu qui choisit son peuple, qui instruit son peuple, qui vit avec son peuple et qui vit dans son peuple. Nous noterons que lorsque Pascal en vient au Dieu des chrétiens, il n'évacue pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Au contraire, et il y a ici un paradoxe qui veut dire que c'est quelque chose d'essentiel au christianisme. Tout le monde connaît peut-être l'existence d'un certain Marcion qui avait pensé qu'il fallait, en devenant chrétien, évacuer le judaïsme. En lisant superficiellement l'Ancien et le Nouveau Testament, comme nous les appelons, il avait conçu que le Dieu révélé en Jésus-Christ était le vrai Dieu et qu'il nous libérait du Dieu des Juifs. Nous voyons bien que ce n'est pas du tout le cas, cela est une hérésie, une illusion, une faute. Le Dieu des chrétiens, c'est bien, je relis Pascal, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens. C'est bien un seul et même Dieu qui se révèle, selon la durée de la révélation, de différentes manières et progressivement. Ce Dieu est bien un Dieu d'amour et de consolation. C'est bien un unique Dieu, connu et adoré par les Juifs et par les chrétiens. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qu'il possède. Donc c'est Dieu qui possède l'âme et le cœur de ceux qui ont le cœur circoncis, Pascal en parle ailleurs, et qui, par la circoncision du cœur, justement, ont rendu leur cœur, qui était au commencement plein d'ordures, capable de sentir Dieu. Je continue, donc c'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie. Nous retrouvons le thème de la misère de l'homme, mais à la misère de l'homme répond la miséricorde infinie de Dieu, la tendresse de Dieu, le pardon de Dieu, qui vient auprès de l'homme et qui vient épouser sa misère, prendre sur soi son péché pour sauver l'homme. C'est un Dieu qui s'unit au fond de leur âme, là c'est encore évidemment un thème augustinien, le Dieu qui est plus intérieur à moi-même que moi-même, et ce Dieu qui vient s'unir à l'âme et au fond de l'âme, remplit l'âme non pas d'orgueil d'être comme Dieu ou de participer à la vie de Dieu, mais la remplit d'humilité dans la douceur de l'accueil de la vie de Dieu lui-même. Ce Dieu remplit l'âme de joie, de confiance et d'amour. Le mot le plus important de tout cela, c'est bien le mot de charité ou le mot d'amour. C'est un Dieu qui rend l'âme incapable d'autre fin que de lui-même. L'homme qui a cheminé pour découvrir Dieu, qui connaît Dieu, ne peut pas connaître Dieu sans l'aimer. Dieu n'est pas quelque chose que l'on pourrait connaître en dehors de la charité, sinon on fait de la vérité une idole. L'attitude véritable consiste tout en un à connaître et à aimer Dieu, à connaître afin d'aimer et à aimer en connaissant. Par conséquent, Dieu est la véritable finalité de toute vie humaine, pour tout homme qui l'a rencontré. Ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ, qui s'arrêtent dans la nature, eh bien, justement, ne peuvent pas connaître Dieu. Ils en restent à ce qu'on pourrait appeler un Dieu horloger, un Dieu auteur, simplement, du monde, c'est le déisme. Et ils veulent le servir sans médiateur. Ils tombent ou bien dans l'athéisme, s'ils vont jusqu'à croire que ce monde est perpétuel et qu'il n'y a pas eu besoin d'un auteur, ou bien dans le déisme, mais Pascal montre bien que l'un et l'autre sont des erreurs. Le Dieu qui se cache est un Dieu qui en même temps se révèle. Et nous pouvons continuer notre méditation en lisant maintenant une lettre à Mademoiselle de Rohanès, lettre d'octobre 1656, un texte magnifique de Pascal, dans lequel il nous montre que Dieu n'est jamais un spectacle. Nous sommes dans une société du spectacle, société du spectaculaire, et des choses nous sont montrées, et en même temps nous sentons bien, si nous sommes un peu habiles ou subtils, que ce qui nous est montré est un théâtre d'ombre, et que les choses principales ne nous sont jamais montrées. Mais dans ce monde du théâtre, du spectacle, nous aurions tendance à attendre un Dieu qui serait lui-même spectaculaire, un Dieu qui serait lui-même donné en spectacle. Or, tout le génie de Pascal consiste à montrer, en méditant la parole d'Isaïe, « En vérité, tu es un Dieu qui se cache », que Dieu se cache. Et le paradoxe ici, c'est que Dieu se révèle en se cachant. Ce qui veut dire que la révélation n'abolit pas le secret de Dieu, le mystère de Dieu, mais au contraire, le maintient. On pourrait aller jusqu'à dire que plus et mieux il se révèle, plus et mieux il se cache, et il ne devient jamais un simple objet visible sous mes yeux, à ma merci, sous ma main, dans ma main, etc. Lisons quelques fragments de cette lettre magnifique. Pascal dit de Dieu qu'il se cache ordinairement. Ordinairement, le mot est à prendre dans son sens précis, c'est-à-dire selon l'ordre habituel des choses, selon l'ordre habituel de sa conduite. Il se cache ordinairement et se découvre rarement à ceux qu'il veut engager dans son service. Donc Dieu se cache selon l'ordre habituel de sa conduite et l'ordre de la nature instituée par lui, mais rarement il lui arrive de se montrer, de se révéler à quelques-uns. Pensons bien sûr ici à Abraham, à Moïse, à Jacob. Pensons à Pierre, à Paul et à tous ceux qui, juifs et chrétiens, écoutent sa révélation et entrent dans la vie avec lui. Je continue ma lecture. Cet étrange secret dans lequel Dieu s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes, est une grande leçon pour nous porter à la solitude loin de la vue des hommes. À partir de là, Pascal nous montre trois grandes étapes de la révélation de Dieu, en nous montrant que dans chacune de ces étapes, en même temps qu'il y a une meilleure connaissance de Dieu, une révélation, le voile est levé, il y a en même temps un plus grand mystère et un plus grand secret. Premier point, Dieu est demeuré caché sous le voile de la nature qui nous le couvre jusqu'à l'incarnation. Et quand il a fallu qu'il ait paru, il s'est encore plus caché en se couvrant de l'humanité. Il était bien plus reconnaissable quand il était invisible que non pas quand il s'est rendu visible. Et enfin, quand il a voulu accomplir la promesse qu'il fit à ses apôtres de demeurer avec les hommes jusqu'à son dernier avènement, il a choisi d'y demeurer dans le plus étrange et le plus obscur secret de tous, qui sont les espèces de l'Eucharistie. C'est ce sacrement que saint Jean appelle dans l'Apocalypse une manne cachée. Et je crois qu'Isaïe le voyait en cet état lorsqu'il dit en esprit de prophétie « Véritablement, tu es un Dieu caché ». C'est là le dernier secret où il peut être. Le voile de la nature qui couvre Dieu a été pénétré par plusieurs infidèles qui, comme dit saint Paul, ont reconnu un Dieu invisible par la nature visible. Romains 1, 20. Les chrétiens hérétiques l'ont connu à travers son humanité et adorent Jésus-Christ, Dieu et homme. Mais de le reconnaître sous des espèces de pain, c'est le propre des seuls catholiques. Il n'y a que nous que Dieu éclaire jusque-là. On peut ajouter à ces considérations le secret de l'Esprit de Dieu, caché encore dans l'Écriture. Reprenons chacun de ces points. Qu'est-ce que nous voyons ? Qu'un homme qui fait usage de sa raison peut regarder l'ordre de la nature, le cosmos, et découvrir Dieu. Donc la nature est comme voilée, mais si nous dévoilons le secret de la nature, nous découvrons l'auteur de cette nature. Nous pouvons donc pénétrer la nature de Dieu, connaître la nature de Dieu, en dévoilant, en levant le voile du mystère de la nature. La nature ici apparaît comme une déesse voilée dont nous pouvons lever le voile, ce qui est l'idée de révélation. Deuxième point, il a fallu que Dieu paraisse, et donc cela, c'est l'incarnation, Jésus de Nazareth. Le paradoxe ici, c'est que Dieu, ou la divinité en Dieu, était encore plus cachée quand elle s'est couverte de l'humanité. Donc il est paradoxalement plus facile de découvrir qu'il doit y avoir un auteur du monde en regardant la nature que de découvrir dans le visage de Jésus la divinité elle-même. Pascal dit « Il était bien plus reconnaissable quand il était invisible que non pas quand il s'est rendu visible. » Troisième acte, l'Eucharistie. Le pain et le vin eucharistique, les espèces de l'Eucharistie. Eh bien, c'est là que Dieu est le plus manifeste. C'est là qu'il est absolument révélé. Et le paradoxe, c'est que c'est là qu'il est le plus caché. Sous, ou plutôt dans le visage de Jésus Nazareth, nous sommes invités à découvrir le visage de Dieu lui-même, comme le dit saint Jean à la fin de son prologue. Mais maintenant, dans l'humilité du pain et du vin, nous sommes invités à découvrir le Dieu présent. Véritablement, tu es un Dieu caché. Nous pouvons croire que ce pain et ce vin ne sont rien de plus que du pain et du vin, comme nous pouvons croire devant le visage de Jésus qui n'est rien de plus qu'un visage humain, mais nous pouvons par la foi savoir que dans ce visage nous est révélé le visage même de Dieu et que dans ce pain et ce vin, ce Dieu se révèle en se cachant. Dieu ne devient jamais un objet simplement de spectacle. Il se révèle bel et bien, mais il se révèle bel et bien en demeurant dans le secret.